Merci d'écouter RFI. 9h à New York et à Port-au-Prince. Il est 13h en temps universel et 15h ici à Paris. Dernière partie d'RFI Midi, on va parler du continent américain, d'Haïti. Le président du Conseil de transition doit s'exprimer tout à l'heure à la tribune des Nations Unies, Edgar Leblanc-Fils. Nous en parlerons dans quelques minutes avec notre confrère Franz Duval, rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste. Nous reviendrons également sur les menaces d'assassinat contre Donald Trump de la part de l'Iran. Le candidat républicain a réagi avec des termes très forts et provocateurs. La presse, elle, tente de comprendre pourquoi Téhéran le menace. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises. Benoît Ferrand, on parlera de la Martinique notamment, où l'octroi de mer fait de nouveaux débats dans le cadre de la crise contre la vie chère.
Oui, et s'en prendre à cette taxe spécifique au département ultramarin pour faire baisser les prix, ce n'est pas la bonne solution. C'est en tout cas ce qu'affirment les communes. Il faut dire que le produit de la taxe va directement dans le budget des collectivités locales.
À tout à l'heure, Benoît. L'actualité du continent américain, ça sera juste après le journal de Mayol de Charon. Mayol, au lendemain de l'appel au cessez-le-feu lancé par la France et les États-Unis, notamment, Israël promet de combattre le Hezbollah jusqu'à la victoire.
Et les bombardements se poursuivent. L'armée israélienne assure avoir visé un commandant du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth à la mi-journée. Depuis lundi, au moins 600 personnes ont été tuées au Liban et plus de 90 000 habitants ont été obligés de fuir, selon l'ONU, principalement le sud du pays et la vallée de la Beka. Ces déplacés sont pour beaucoup arrivés dans des écoles qui leur ouvrent leurs portes dans des régions pour leur moins touchées par la guerre. Sophie Guignon, notre correspondante à Beyrouth, est allée à leur rencontre.
Sur les hauteurs de Beyrouth, Abchamoun, branle-bas de combat pour accueillir 600 déplacés du sud du Liban dans l'école publique.
Ici, on a du lait pour bébé, des couches, des mouchoirs et du chocolat pour les enfants parce qu'ils aiment le chocolat.
Alia Aboucharaf, la directrice de l'école, s'apprêtait à faire la rentrée scolaire. Elle est aujourd'hui à la tête d'un refuge.
Les besoins sont importants. Heureusement, il y a beaucoup d'organisations qui nous aident. Il y a beaucoup de solidarité avec les habitants. Ce dont on a le plus besoin, ce sont des matelas, des couvertures. On a aussi besoin de produits d'hygiène, de la nourriture et à boire.
À la hâte, les 28 salles de classe ont été transformées en dortoirs. Hassan Madi a dû fuir avec sa femme et ses 4 enfants. Ils sont traumatisés par les scènes de massacre de civils.
Il y a eu des bombardements très forts autour de nous, sur les gens, sur les civils. J'ai aidé à ramasser et laver les martyrs pour les enterrer. Des civils, une famille de 8 personnes. Leur corps était en morceaux. C'était une mère et ses enfants. Ils prenaient le petit déjeuner.
Des scènes de terreur qui rappellent celles de Gaza. Tous ici espèrent un cessez-le-feu rapide. Sophie Guignon, Chamoun RFI.
Les bombardements israéliens se poursuivent également à Gaza. Au moins 17 personnes sont mortes cette nuit dans l'enclave, selon les services de santé palestiniens.
En Russie, le Kremlin insiste. Le changement de doctrine nucléaire est un signal destiné aux Occidentaux.
Hier, le président russe a prévenu. Désormais, son pays pourrait utiliser l'arme nucléaire en cas de lancement massif d'attaques aériennes. Moscou précise, tout assaut mené par un pays non nucléaire, mais soutenu par une puissance disposant de l'arme atomique, pourrait être considéré comme une agression conjointe. Une déclaration faite alors que les tensions sont au plus haut avec les Occidentaux en raison de l'offensive en Ukraine. À Moscou, la correspondance d'Anissa El-Jabri.
Le sujet est partout dans la presse russe ce matin, à la une des médias légitimistes. Plus particulièrement, certains vont jusqu'à publier le texte intégral de l'intervention de Vladimir Poutine. Le quotidien Commerçant, de son côté, attire l'attention sur un fait. Cette réunion, qui a habituellement lieu à huis clos, a été diffusée en direct à la télévision. Commentaire du journal, je cite, « Il était manifestement important pour les autorités d'envoyer un message clair à leurs ennemis. » Message que le porte-parole du Kremlin a tenu à préciser ce matin, soulignant que Moscou entend bien être pris au sérieux, Dimitri Peskov.
C'est un signal qui avertit des pays des conséquences s'ils participent à une attaque contre le nôtre par divers moyens et pas nécessairement nucléaire. Dans le passé, les chefs d'État sensés, les politiciens et les analystes sensés comprenaient parfaitement le sérieux des déclarations du président Poutine. Surtout qu'aujourd'hui, il s'agit d'une confrontation sans précédent provoquée par l'implication implication directe des pays occidentaux, y compris des puissances nucléaires, dans le conflit autour de l'Ukraine.
Comme si Moscou souhaitait aussi créer du suspense ou de l'incertitude, Dmitri Peskov n'a pas précisé si l'Ukraine et ou des pays de l'OTAN figureraient sur la liste des pays qui seraient soumis à la dissuasion nucléaire russe. Cela sera précisé après, a dit le porte-parole du Kremlin. Anicel Jabri, Moscou, RFI.
Et sa déclaration ne mentionne pas d'autorisation de lancer des missiles à longue portée de fabrication américaine vers la Russie. Une demande de Kiev, mais à quelques heures d'une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le président américain Joe Biden a annoncé une augmentation de l'aide militaire à l'Ukraine, une enveloppe de 8 milliards de dollars et de nouvelles munitions à longue portée. Sur le terrain, Kiev est en difficulté. Ce matin, la Russie a revendiqué une nouvelle prise, celle d'Ouraïnsk, une ville de la région de Donetsk dans l'est de l'Ukraine où ses troupes progressent ces derniers mois.
L'affaire risque d'embarrasser le camp démocrate à 40 jours maintenant de la présidentielle aux États-Unis.
Le maire de New York, Eric Adams, a été inculpé dans une enquête du parquet fédéral de Manhattan. Les affaires se multiplient ces derniers mois, les appels à la démission aussi. Eric Adams est soupçonné d'avoir reçu des financements et des dons liés à la Turquie. Carlotta Morteo.
Le destin exceptionnel de Eric Adams, success story américaine, implose avec cette inculpation révélée par le New York Times ce matin et dont les détails devraient être rendus publics aujourd'hui. L'ancien policier afro-américain originaire de Brooklyn, devenu maire de New York en 2021 avec la promesse de faire baisser la criminalité, est donc soupçonné d'avoir été corrompu dans son intégrité par des dons en nature et des financements illégaux lors de sa campagne de la part de sociétés liées de près ou de loin au gouvernement turc. Eric Adams s'est rendu plusieurs fois en Turquie. Il a rencontré le président Recep Tayyip Erdogan. Pour autant, a-t-il exercé des pressions, par exemple, sur des fonctionnaires municipaux pour qu'ils approuvent la construction d'un consulat turc flambant neuf, malgré les problèmes de sécurité posés par ce nouveau gratte-ciel? C'est l'une des questions qui se posent. Le maire démocrate de New York clame son innocence, dit avoir été pris pour cible, je cite, sur la base de mensonges. Mais après des mois de scandales et des démissions successives dans son équipe ces derniers jours, de nombreux élus demandent sa démission pour le bien de la ville.
Carlotta Morteo. Aux États-Unis, toujours en Californie, Meta veut révolutionner le monde de la tech.
Voici Orion, les lunettes les plus avancées au monde et notre premier prototype de réalité augmentée complètement holographique.
Mark Zuckerberg, grand patron de Facebook, a présenté son tout nouveau modèle de lunettes connectées durant la grande conférence annuelle de l'entreprise. Leur nouveauté, des projections 3D qui s'affichent dans les verres. Bonjour Gali Bonin.
Bonjour.
Meta qui pense que cette technologie viendra remplacer les smartphones.
Oui, ce prototype rassemble tous les outils d'un téléphone intelligent sur le bout de votre nez. Le design est simple, une épaisse monture noire équipée d'une caméra, d'écouteurs et d'une assistance d'intelligence artificielle, et des verres transparents qui servent d'écran. Avec Orion, Mark Zuckerberg veut littéralement nous mettre des étoiles plein les yeux.
Cet écran sera différent de tous les autres que vous aurez utilisés parce que ce n'est pas un écran. C'est un système d'affichage complètement innovant avec ces minuscules projecteurs dans les branches des lunettes qui projettent de la lumière dans les verres.
Ce n'est pas de la réalité virtuelle, mais de la réalité augmentée. Les commandes se font oralement ou avec la gestuelle des mains, un projet sur lequel Meta planche depuis environ 10 ans.
Avec Orion, on approche un peu plus du rêve des laboratoires de réalité augmentée, créer la prochaine plateforme informatique majeure qui fournit une véritable impression de présence avec des hologrammes. C'est là où nous allons.
Orion n'est encore qu'un prototype. Avant de les commercialiser, Meta veut améliorer la qualité des images, peaufiner le look des lunettes et surtout réduire les coûts de production pour les rendre abordables.
Merci Gali. Bonin, RFI, 15h09 à Paris. La suite, c'est avec Anne Grantner.
Merci Maïel de Charon. Dernière partie d'RFI Midi, on va parler du continent américain.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Rencontre, réunion, Haïti occupe toujours une place importante à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et nous allons en parler avec vous, Franz Duval. Bonjour.
Bonjour Anne.
Rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste, en ligne avec nous de Port-au-Prince. Frantz, avant d'évoquer ce qui fait la une de votre journal, un mot de l'allocution prévue tout à l'heure à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, l'allocution d'Edgar Leblanc-Fils, le président du Conseil présidentiel de transition. Il y a eu quelques cafouillages diplomatiques, hein, on en a beaucoup parlé ici. Frantz, vous nous confirmez que c'est bien lui qui va s'exprimer ?
Sauf changement de vraiment dernière seconde, c'est M. Edgar Leblanc-Fils, le président du Conseil présidentiel de transition, qui va prendre la parole à la tribune des Nations Unies au nom d'Haïti. M. Leblanc est arrivé aux États-Unis mardi et depuis, on peut dire que tout est rentré dans l'ordre. La ministre des Affaires étrangères, Dominique Dupuy, a été le chercher à l'aéroport. Il a participé à toutes les rencontres auxquelles il devait participer. Il a pris la parole hier deux fois pendant la réunion du secrétaire d'État américain sur la sécurité en Haïti et aussi pendant un forum sur l'investissement en Haïti. Monsieur Leblanc est le chef de la délégation, cela avait été clair dès le début. Il y avait eu un moment de cafouillage, mais tout est rentré dans l'ordre et c'est bien Monsieur Leblanc qui doit porter la parole d'Haïti devant l'ONU ce matin.
Est-ce que vous en attendez quelque chose de particulier de cette allocution, France?
Oui, qu'Haïti s'exprime d'une voix claire, d'une voix forte, qu'Haïti explique sa situation, qu'on n'essaie pas de tergiverser sur la problématique haïtienne, parce que pendant longtemps, les autorités haïtiennes à l'ONU expliquaient que tout allait bien, alors que sur le terrain, rien n'allait. On espère que M. Leblanc sera le plus clair que possible pour expliquer que la mission est sous-calibrée, la mission n'est pas équipée, je parle de la mission d'appui à la sécurité, et qu'il demande de l'aide des autres partenaires d'Haïti pour que d'autres pays, d'autres forces soient mises à la disposition de cette mission multinationale d'appui à la sécurité pour qu'enfin on ait les moyens réels en hommes et en matériel et en financement pour pouvoir avancer dans la lutte contre l'insécurité.
Cette mission, vous le disiez, elle a fait l'objet hier à New York d'une réunion ministérielle à l'initiative des États-Unis. Il y a eu beaucoup de promesses financières, des engagements aussi, France, en matière d'hommes et de matériel.
Le Nouvelliste a essayé de faire le compte de ce qui a été annoncé hier. La principale annonce vient des États-Unis, qui vont ajouter 160 millions de dollars à leur aide à Haïti. Ça fait 1,3 milliard de dollars depuis 3 ans que les États-Unis ont avancé, à la fois pour des questions économiques, mais surtout pour des questions de sécurité. Il y a le Guatemala qui a annoncé 150 hommes pour renforcer la mission. Il y a d'autres pays qui ont pris des engagements. La France a augmenté sa contribution financière. L'Union européenne, qui n'avait jamais mis la main à la poche, a annoncé qu'elle va participer au fonds de soutien à la mission. Le Canada va continuer avec la formation, particulièrement financer la formation de ces troupes qui viennent en Haïti, mais qui n'étaient pas habituées à un terrain francophone. Il y a de l'espoir, mais en même temps, il y a aussi un petit cafouillage parce qu'il était question de transformation de la force en force onusienne pendant ce mois de septembre. Mais on a l'impression qu'on est en train de jouer sur les deux tableaux. On renforce ce qui existe en attendant de pouvoir changer en mission de maintien de la paix.
Voilà, et pendant que les gangs France maintiennent leur pression sur le pays, Port-au-Prince, ils continuent donc à mettre la pression dans la capitale, en Artibonite aussi. Hein, et d'ailleurs, le Trésor américain a sanctionné hier un politique et chef de gang de ce département.
Tout à fait, c'est la première fois que les sanctions, particulièrement les sanctions américaines, s'étendent à des politiciens haïtiens, à des chefs de gang haïtiens qui ne vivent pas dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, qui n'exercent pas leurs activités nocives seulement sur Port-au-Prince. Monsieur Profane et le chef de gang de Grand Griff qui a été sanctionné répondent à une autre logique, une logique de ville de province. L'Artibonite sur les départements le plus grand après Port-au-Prince et en termes de population, mais surtout en termes de superficie. Et il y a des bandes armées qui exercent des violences sur la population depuis des années. Cela coupe quasiment le pays en deux. Pour sortir de Port-au-Prince pour aller au Cap-Haïtien, souvent il faut faire un grand détour par le plateau central pour arriver au Cap-Haïtien parce que les gangs tiennent l'Artibonite.
Frantz Duval du Nouvelliste, votre journal a suivi aussi l'un des dossiers dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, les polémiques lancées par le camp républicain aux États-Unis contre les Haïtiens installés dans le pays. On va en reparler avec vous dans quelques minutes, Frantz, mais d'abord je vous propose d'écouter l'association qui a porté plainte dans cette affaire. On en parlait hier, et bien nous avons pu la joindre, cette association, un groupe de défense des droits humains qui demande l'inculpation et l'arrestation de Donald Trump et de son colissier J.D. Vance à cause de la campagne de haine qu'ils ont déclenchée en répétant que les migrants haïtiens mangeaient les animaux domestiques des Américains dans la ville de Springfield, dans l'Ohio. C'est faux, bien sûr, mais les conséquences, elles sont bien réelles. C'est ce qu'explique la fondatrice de la Haitian Bridge Alliance, Garline Joseph, qui a donc saisi un juge de l'Ohio.
Les récits ignobles créés par M. Vance et M. Trump sont profondément enracinés dans le racisme anti-noir et le suprémacisme blanc. Il y a eu de nombreuses alertes à la bombe à Springfield qui ont forcé la ville à fermer les écoles et les hôpitaux ainsi que d'autres administrations sont en état d'alerte. Des gens sont toujours menacés. Pour ma part, je reçois des emails et des coups de fil de menaces me disant de retourner en Haïti. Et ça continue d'être le cas dans tous les États-Unis. Ces gens qui ont un pouvoir immense, au lieu de l'utiliser pour le bien, ils l'utilisent pour engendrer la haine, la panique et le chaos. Et donc nous, nous allons devant la cour pour que justice soit rendue pour les gens à qui ils continuent de faire du mal. Et oui, nous espérons bien qu'ils seront arrêtés. Nous ne sommes pas impliqués dans les élections, nous sommes une organisation non partisane. Actuellement, nous poursuivons aussi le président Joe Biden pour la manière dont les États-Unis se sont comportés face aux migrants haïtiens dans la ville de Del Rio, au Texas, en 2021.
La fondatrice de la Haitian Bridge Alliance, Garline Joseph, elle répondait à Christophe Paget. Cette affaire, elle s'affiche toujours en une de la presse aux États-Unis aussi. Vous l'avez lu, Harim Lipold, la demande d'arrestation de Donald Trump et de J.D. Vance a provoqué la colère d'un certain nombre de responsables républicains.
Oui, et l'un d'entre eux a publié sur son compte officiel du Congrès un tweet raciste, encore un, contre les Haïtiens, les qualifiant de sauvages et de voyous. Qui ferait mieux de quitter le pays? Selon Politico, le tweet a provoqué un tollé au Congrès hier. Plusieurs députés du Black Caucus, y compris des républicains, ont demandé à Clay Higgins de retirer son message odieux, ce qu'il a fait finalement. Le député démocrate Stephen Horsford a demandé des sanctions contre son collègue républicain.
These words on an official post do not reflect.
Ces mots postés sur le compte officiel ne donnent pas une image crédible du Parlement, explique le démocrate. Selon lui, ils incitent à la haine et à la peur. Stephen Horsford demande à la Chambre des députés de parler d'une seule voix et de veiller à ce qu'il y ait une obligation de rendre des comptes.
On va continuer à feuilleter la presse aux États-Unis dans quelques instants. Mais d'abord, Franz Duval, on vous retrouve pour un mot sur tout ça, puisque vous en parlez dans votre éditorial du jour. Vous réagissez à ce déferlement de propos racistes qui, dites-vous, rappelle les prémices qui ont mené à des génocides à travers l'histoire.
Tout à fait. Le Nouvelliste suit avec la plus grande attention cette campagne qui est en train d'être orchestrée aux États-Unis. D'abord par le président Trump, candidat à la présidence cette année, et son vice-président, mais maintenant qui s'étend à des élus et à des relais du Parti républicain. Ce sont des propos racistes, xénophobes, mais en même temps, cela nous rappelle d'autres situations à travers le monde où on a commencé avec des mots et très vite on est passé à autre chose. La violence est passée du symbolique à l'extermination. On craint beaucoup pour les communautés haïtiennes qui vivent aux États-Unis. C'est une affaire qu'on suit et on espère que ça va se calmer. Mais c'est une affaire très menaçante pour les communautés haïtiennes des États-Unis.
Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste, en ligne avec nous de Port-au-Prince. Merci. On peut vous lire sur le site de votre journal, lenouvelliste.com. En attendant de vous retrouver ici sur cette antenne jeudi prochain.
RFI, The World's Voices.
Autre sujet à la une de la presse aux États-Unis, Harim Lipold, c'est le candidat républicain Donald Trump qui assure que sa vie est menacée par l'Iran.
Oui, selon son équipe de campagne, le candidat républicain a été informé par les renseignements américains de l'existence de menaces concrètes d'assassinat contre lui, des menaces en provenance de l'Iran. Donald Trump, qui a été visé par 2 tentatives d'assassinat sans que l'on connaisse le mobile, n'a pas tardé de réagir à cette nouvelle information.
But if I were the president, I would inform the threatening country, in this case Iran.
Si moi j'étais président, j'informerais le pays qui profère ces menaces, en l'occurrence l'Iran, que si vous faites quoi que ce soit pour nuire à cette personne, nous ferons détruire vos plus grandes villes et le pays lui-même. Déclaration faite hier lors d'un meeting, c'est-à-dire sur le site de la chaîne ABC News. Les renseignements n'ont pas voulu préciser les détails de ces menaces, Anne, mais une source gouvernementale, à savoir le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, les a confirmés au journal USA Today. Selon lui, le gouvernement suit les menaces iraniennes contre l'ancien président Trump et les anciens responsables de l'administration Trump depuis des années. Ces menaces découleraient en fait du désir de l'Iran de se venger de l'assassinat de Qassem Soleimani, le général iranien tué en 2020 lors d'une attaque de drone ordonnée par le président Trump. De son côté, le magazine Time consacre un long article sur un homme pakistanais, Asif Merchant, arrêté en août dernier aux États-Unis et accusé de fomenter l'assassinat contre le candidat républicain Donald Trump pour le compte de l'Iran.
Et puis dans la presse, on parle aussi de la Floride où les habitants et les autorités se préparent à l'arrivée de l'ouragan Helene.
Oui, c'est à la une de Miami Herald ce matin. Selon le quotidien, la capitale de la Floride, Tallahassee, se prépare à affronter, je cite, la plus grosse tempête qu'elle ait jamais connue. Les autorités locales s'attendent à des dégâts sans précédent. Le gouverneur de Floride a décidé de mettre en place une cellule d'urgence supplémentaire au cas où le centre d'opération d'urgence qui existe déjà tomberait en panne.
Votre revue de presse, c'est direction le Canada à présent, Arim, le Canada où le Premier ministre Justin Trudeau vient de survivre à une motion de censure déposée par les conservateurs au Parlement.
Yes pour 120, nays contre 211.
Je déclare la motion rejetée.
Voilà, la motion de censure rejetée donc par 211 députés contre 120 qui se sont prononcés en sa faveur. Un score finalement sans surprise, écrit le journal La Presse en soulignant que le parti conservateur qui a déposé cette motion reviendra toutefois vite à la charge avec une autre motion de censure dès ce jeudi. Au moment de l'annonce du résultat du vote, le Premier ministre a été applaudi par ses députés libéraux qui ont scandé « Four more years ». Quatre ans de plus. Le journal Globe and Mail souligne toutefois que le gouvernement se trouve désormais en sursis car le parti NPD, qui avait promis de soutenir les libéraux après les dernières élections législatives, a récemment rompu cet accord. Le parti votera désormais au cas par cas sur les lois libérales.
La revue de presse signée Achim Lippold.
RFI, la radio del mundo.
Et nous vous emmenons maintenant au Pérou, au cœur de l'Amazonie. La ville d'Iquitos est la plus grande du monde à ne pas être accessible par la route. Elle est entourée de forêts et le seul moyen pour y arriver, c'est de prendre le bateau ou l'avion. L'État veut changer les choses, prévoit de construire un immense pont pour rallier la frontière colombienne, le pont de Nanay, qui pour l'instant ne mène nulle part. Une partie des travaux ont déjà été réalisés, mais ce projet est absolument titanesque. Plus de 350 millions d'euros d'investissement. Alors, c'est l'espoir d'un désenclavement, mais ce pont, il est loin de faire l'unanimité, comme vous allez l'entendre dans ce reportage de Juliette Chénion.
Impossible de le rater au nord d'Iquitos, le pont Nanay enjambe le fleuve du même nom. C'est un pont suspendu, rouge, massif, un monument à voir d'après les guides touristiques. Maritza, elle, s'y rend pour vendre des fruits amazoniens.
Pour nous qui vivons sur la rive du fleuve, on préfère le pont pour aller au marché parce que le bateau est plus dangereux et plus cher. On doit payer 3 transports et on ne rentre pas toujours dans nos frais.
Mais le pont Nanay, le plus grand du pays, plus de 2 km de double voie asphaltée, n'est pour le moment emprunté que par des mototaxis. C'est le premier tronçon d'un projet de 188 km, imaginé il y a 13 ans, pour relier Iquitos à la frontière colombienne. Derrière le pont, la route s'arrête, place à un chemin de terre pour mener aux villages riverains du fleuve Amazon, comme celui de Barrio Florido, où Mario, 72 ans, attend avec impatience le deuxième tronçon de la route.
Pour générer plus d'argent, plus de projets, nous on veut avancer, on ne veut plus vivre comme avant. Et ici, tout est cher, parce qu'on n'a pas de route pour faire venir les produits. Ici, c'est de l'avion et du bateau.
Développement économique, meilleure connexion entre les villages, ce sont exactement les arguments du ministère des Transports. Loin de convaincre, à quelques kilomètres de là, dans la communauté autochtone de Centro Arenal, où la dirigeante Soyla Ochogaray s'oppose au projet.
Pour ceux qui sont en ville, oui, c'est intéressant, mais pas pour nous, les communautés autochtones.
Ici, personne n'a de voiture. Soyla vit dans une maison en bois, ouverte, sans porte d'entrée ni grillage.
Ici, on cultive des bananes et du tapioca en petite quantité.
La dirigeante se bat aussi pour que l'État consulte sa communauté avant de construire la route.
Ils devraient le faire d'eux-mêmes, qu'on n'ait pas à le leur demander. Maintenant, ils commencent à nous parler parce qu'on l'a exigé. On ne veut pas empêcher la construction de la route, mais en atténuer les dégâts environnementaux et sociétaux.
Le ministère des Transports a surmené une étude d'impact, résultat annoncé d'ici l'an prochain. En attendant, la menace s'est déjà concrétisée d'après Soyla.
Les empresarios qui ont des restaurants,
Les entrepreneurs qui sont dans la restauration, dans le tourisme ou dans les stations-service sont à l'affût de communautés où il va y avoir des projets, où ils vont pouvoir installer des locaux. Ce sont eux qui envahissent nos terres et qui font venir des délinquants de la ville. C'est en train de se passer chez nous. Il y a des divisions, des affrontements. On reçoit des menaces de mort.
Nos divide la comunidad y nos hace un enfrentamiento.
Certaines communautés autochtones, souvent vulnérables, sont même tentées de vendre leur terrain, regrette Zoila.
Et après, on perd notre culture, nos animaux, nos plantes. On dit que l'Amazonie est le poumon du monde, mais l'Amazonie est en train de s'épuiser.
Pero esta Amazonía ya se está agotando.
Un danger pour la biodiversité confirmé par la SPDA, une association péruvienne de défense de l'environnement. Dans ses bureaux de Lima, Brian Palomino, juriste, présente les résultats de son rapport.
Comme on le voit sur cette carte, après le premier tronçon et au début du deuxième, qu'on voit ici en rouge, il y a des zones de déforestation.
Les deux derniers tronçons de la route, les deux plus longs, sont encore loin d'être construits, mais l'association alerte déjà.
Selon le tracé, la route traverserait deux réserves régionales de conservation. Si les conséquences ne sont pas gérées de manière opportune, cela pourrait affecter tous les objectifs de conservation, la protection des forêts, de la faune et le mode traditionnel des communautés de cette zone.
Et la route finirait dans une zone de triple frontière avec la Colombie et le Brésil.
Cela pourrait potentiellement amener des trafics illicites, la traite des personnes, le trafic de faune, de flore.
Cette région du Loreto est en effet de plus en plus touchée par la criminalité, trafic de bois, d'or, de drogue, autant d'activités illégales à qui la construction de la route pourrait aussi profiter, comme cela s'observe dans d'autres régions d'Amazonie. Juliette Chénion, de retour d'Iquitos, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Et on vous retrouve, Benoît Ferrand. Benoît, s'en prendre à l'octroi de mer pour faire baisser les prix en Martinique, ce n'est pas la bonne solution. Ce sont les maires, M-A-I-R-E-S, qui sont en première ligne sur ce sujet.
Et oui, car la taxe, cette taxe spécifique au département ultramarin va directement dans leur budget, le budget des communes. De plus, et selon un rapport commandé par l'Association des maires de France, l'octroi de mer n'aurait qu'un impact, paraît-il, très limité sur les prix. Laetitia Mallet est la déléguée générale adjointe des communes et collectivités d'outre-mer. Elle est au micro de Jean-Marc Dabreux.
L'étude est en cours de finalisation et elle sera publiée dans les semaines qui viennent. Mais globalement, aujourd'hui, on en est sûr, l'octroi de mer a un impact très faible sur les coûts dans nos territoires. Donc pour nous, c'est ailleurs qu'il faut chercher le responsable de la vie chère dans nos territoires. Et ce qui est important de rappeler aujourd'hui, c'est que l'octroi de mer, c'est une ressource essentielle pour les collectivités ultramarines. C'est ce qui permet aux maires de mener l'action publique, c'est ce qui permet aux CCAS de soutenir les populations les plus démunies. Et dans la conjoncture actuelle où l'État prévoit des coupes budgétaires, notamment pour les territoires ultramarins, on ne peut pas se permettre de voir les ressources des collectivités, les ressources des communes diminuer parce que ce sera aux dépens des populations ultramarines.
C'est pas moi, c'est lui, c'est pas lui, c'est l'autre. Et pendant ce temps-là, comme on dirait à l'île de la Réunion, les cabris mangent la salade. En Guadeloupe, la direction d'EDF et les syndicats se renvoient la balle à grand renfort de communiqués. Les clients, eux, n'en peuvent mais et se retrouvent régulièrement privés de courant. Éric Bagassien.
Voilà donc les usagers plongés en pleine bataille de communication que se livrent les deux parties dans ce conflit. La direction d'EDF ferait-elle preuve de mauvaise foi ou les syndicats dans une stratégie de propagande ? Au centre de ce bras de fer, l'application d'un protocole d'accord signé en 2023. Difficile de comprendre donc que l'on soit contraint à une grève avec autant de conséquences pour juste le respect de documents signés par les deux parties. Des questions qui relèvent pour les spécialistes du dialogue social au sein d'une entreprise. Pour l'heure, on est encore au stade des ultimatums. Prochaine date butoir, le 30 septembre prochain. En attendant, chaque partie campe sur sa position dans la bataille des communiqués. Quant aux coupures, la CGT affirme maintenir une production suffisante pour éviter les délestages.
Éric Bagassien, la première Guadeloupe. Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. Merci à tous d'avoir été avec nous. L'émission d'aujourd'hui était réalisée par Vincent Biteau. On se retrouve demain, 11h, temps universel, mais vous restez sur RFI. Dans quelques instants maintenant, vous retrouvez Pascal Paradou pour son émission De Vive Voix et son invitée, l'autrice franco-américaine Jennifer Richard. Très bonne journée à tous.
L'Afrique en jeu, sport en légende. Silver Henri Cissé.
La championne olympique Marie-Josée Pérec aux Jeux olympiques de Sydney, terrifiée. Marie-Josée Pérec en 2000 en Australie, martyrisée. Marie-Josée Pérec en fuite pour se sécuriser. Toute la lumière sur cette incroyable affaire, mise en récit et analysée avec l'historien Nicolas Bancel.
L'Afrique en jeu, sport en légende, avec Silver Henri Cissé, tous les samedis à 11h30 TU sur RFI.